Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. Des millions de Chinois confinés depuis plus d'un mois et qui n'en peuvent plus et qui se rebellent. Et en face, un pouvoir chinois qui se braque, lui, et qui s'obstine dans sa politique zéro Covid, pourtant qualifiée de non tenable par l'OMS. L'Info C'est Clair est intitulé « Chine, le virus qui fait vaciller le régime ». Nos invités, Pierre Aski, vous êtes chroniqueur géopolitique sur France Inter, auteur de La géopolitique de la Chine, c'est aux éditions Erol. Marie Holzmann, vous êtes sinologue, présidente de Solidarité Chine. Et Sylvie Matelli, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS, auteur de Géopolitique de l'économie, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde, c'est aux éditions Erol. Merci de participer à cette émission. Et pour commencer, je vous propose de regarder ce reportage exceptionnel de nos correspondants, des correspondants de France Télévisions, à Shanghai, qui montre une population qui n'en peut plus d'être confinée et qui se rebelle. On regarde et on en parle juste après.
Shanghai, les nerfs à vif.
Allons-y, tout le monde descend.
Ses habitants attendent d'être ravitaillés en nourriture. La faim les pousse à en venir aux mains contre ses fonctionnaires locaux en combinaison blanche. Shanghai craque à l'image de cet homme. Beaucoup comprennent sa souffrance après plus d'un mois d'enfermement. La police a des ordres. Tous les moyens sont bons pour neutraliser les récalcitrants, ici avec du ruban adhésif. Des habitants à bout. Ces images de tentatives de suicide, nombreuses, circulent sur les réseaux sociaux. Lui s'est donné la mort. Chen Chengping était violoniste. Souffrant d'atroces douleurs abdominales, plusieurs hôpitaux auraient refusé de le prendre en charge. Son fils a partagé ce message.
Mon père a été retrouvé dans une mare de sang. Il s'est jeté par la fenêtre.
41e jour d'enfermement pour 25 millions d'habitants et des mesures au nom de la lutte contre la pandémie toujours plus dures. À tout moment, la police peut se présenter à votre porte.
Nous devons vous transférer. Vous avez été désigné comme cas contact. Ouvrez-nous, autrement, nous allons forcer la porte.
Un seul cas positif au Covid-19 dans un immeuble et tous les résidents peuvent désormais être évacués, même s'ils sont testés négatifs. Pas de discussion possible.
Si vous avez des réclamations à faire concernant la prévention de l'épidémie, vous pourrez les faire par la suite aux services concernés. Mais vous devez nous suivre, c'est la règle.
Tous les jours, souvent la nuit, des milliers de Shanghaïens sont ainsi amenés dans des centres de quarantaine. Pendant qu'à coups de javel et d'hypochlorite de sodium, ces nettoyeurs, il n'y en a qu'en Chine, s'introduisent dans les appartements vides. Shanghai est toujours quadrillé, les contrôles de police sont partout. Ces rues sont même grillagées ou murées. La ville reste sous cloche, personne ne peut y entrer.
J'ai un laissez-passer signé par la ville. Ma mère est très malade. Elle est seule à la maison depuis 20 jours. J'ai été transférée dans un centre d'isolement. Pourquoi vous ne me laissez pas rentrer chez moi ?
Au barrage, des centaines de gens attendent au bord de la route la fin du confinement et la réouverture de la ville. Mais le président chinois Xi Jinping l'a rappelé, il faut de la persévérance dans la lutte contre le Covid-19, quoi qu'il en coûte.
L'Organisation mondiale de la santé considère aujourd'hui que la politique zéro Covid chinoise est, je cite, insoutenable. Des propos qui ont rencontré un certain écho ici à Shanghai, mais qui ont été immédiatement censurés dans les médias et sur les réseaux sociaux.
Marie Holzmann, on est surpris par ces scènes qu'on n'imaginait pas en Chine. On pensait que la population était tenue. Enfin, vous qui connaissez, est-ce que vous-même, ça vous surprend là, les images que vous venez de voir?
Évidemment, c'est quand même une violence incroyable. Mais quand vous dites « on n'imaginait pas », ça fait 40 jours qu'on les voit, ces images. Dès le début, la violence a été là. Parce que beaucoup de gens disent « moi, je ne veux pas aller en centre de confinement, je préfère rester chez moi, je vais me soigner chez moi ». Et ils ont raison, parce que dans les centres de confinement, ils ne font rien. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Et en plus, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas de douche. Enfin, donc la situation est absurde. Maintenant, ils savent, ils ont les nouvelles de ceux qui sont revenus, etc. Donc les gens sont à bout Et la violence en Chine, ça, on connaît quand même. Au moindre incident sur une autoroute, les gens se cassent la figure, hein, vraiment avec beaucoup d'énergie. Donc la violence, elle est quand même présente en Chine.
Sylvie Matelli, est-ce que si cette situation que décrivait à l'instant Marie Holzmann, d'une population qui veut d'hygiène, qui veut, parce qu'il paraît qu'il n'y a même pas trop à manger, hein, est-ce que c'est le signe aussi d'une population qui s'est embourgeoisée, qui ne veut plus du tout subir des restrictions que subissaient peut-être leurs parents ou leurs grands-parents ?
Alors, pour partie, oui, mais pas complètement. Il y a plusieurs facteurs qui jouent. Effectivement, c'est particulièrement violent sur le confinement à Shanghai parce qu'on est face à une population qui s'est, pour une partie, habituée à un certain confort de vie. Et comme vient de le décrire Marie, c'est vrai que les situations dans les centres sont très compliquées, avec pas d'hygiène et des difficultés. Mais on est aussi face à une population, au fond, et c'est là que la stratégie du zéro Covid montre toutes ses limites, alors qu'on la vantait. Il y a quand même un an de ça, tout le monde pensait que ça, c'est plutôt en Asie qu'on avait réussi à mieux gérer cette épidémie. On est dans une situation où on se retrouve face à un virus qui, au fur et à mesure qu'il a muté, est devenu de plus en plus contagieux. Et donc, quand vous voulez avoir une stratégie zéro Covid, vous êtes obligé de resserrer systématiquement la vis, surtout quand ça touche de très grandes villes. Et on sait, on l'a vu nous aussi, que face à des mesures de restriction, dans le temps, on a de plus en plus de mal en fait à les supporter pour des raisons objectives, mais aussi pour des raisons subjectives et non maîtrisées. C'est-à-dire, on craque en fait, hein, on n'arrive pas à tenir. Et là, on se retrouve face à une population qui est dans cette situation véritablement, qui a du mal au bout de 2 ans, à accepter de nouvelles contraintes. Or, les contraintes ne peuvent que se durcir. Et c'est toute la limite de la gestion zéro Covid.
Eh oui, Pierre Aski, c'est vrai qu'on accepte des mesures peut-être très dures si on estime qu'elles sont efficaces, qu'elles vont nous permettre de nous sortir d'une situation. Or là, c'est l'OMS qui le dit. Il dit que la stratégie zéro Covid est intenable. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait dire à l'OMS ? Que cette stratégie zéro Covid, qui, comme vous le disiez, a très bien fonctionné en Chine, au début où il y a eu très peu de morts, pourquoi est-elle aujourd'hui intenable ?
Parce qu'il y a la contagiosité d'Omicron, qui a changé la donne, en fait. Jusqu'à Omicron, la Chine était épargnée. Dès qu'il y avait quelques cas, on isolait une ville, un quartier, on testait des millions de personnes. Ça nous semblait excessif, mais ça avait permis pendant 2 ans... à ce pays qui est resté fermé depuis 2 ans, il faut quand même le rappeler, 1,5 milliard d'habitants, de traverser cette période sans trop d'encombre. Là, on a atteint les limites avec un virus qui se propage très vite. Nous, on a géré ça avec le vaccin. On a un taux de vaccination qui est très élevé. Le problème de Shanghai, c'est qu'une personne de plus de 80 ans sur 2 n'est pas vaccinée.
Et comment se fait-il qu'il n'ait pas vacciné les aînés ?
Parce qu'on a fait l'inverse de l'Europe. On a vacciné les plus jeunes pour que les usines tournent.
On a privilégié les salariés aux plus âgés au nom de l'économie.
Voilà. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec cette contradiction qui est que si on laisse le virus se répandre, il va y avoir effectivement une hécatombe. Et là, on arrive à la dimension politique de cette affaire. C'est que hier soir encore, à la télévision chinoise, il y avait le porte-parole des affaires étrangères qui parlait à la télévision chinoise, expliquait à quel point les États-Unis étaient un pays criminel parce qu'il y avait eu 1 million de morts aux États-Unis. Alors qu'en Chine, le chiffre officiel est de 4 000. On peut discuter ce chiffre et il est sans doute sous-estimé. Mais en tout cas, il est loin du million des États-Unis. Et donc, le message subliminal, c'est OK, c'est difficile, vous avez du mal à accepter ces restrictions, mais regardez les méchants Américains, 1 million de morts. Donc, et il y a eu une étude il y a quelques jours qui a été faite par un groupe économique qui disait que si on laissait circuler le virus aujourd'hui en Chine, il y aurait 1,5 million de morts, donc plus que les États-Unis. Tout ça, ce sont des facteurs qu'il faut prendre en compte et il y a une dimension psychologique, géopolitique, internationale et locale qui est extrêmement complexe.
Marie Holzmann, si le pouvoir politique se sent dans l'obligation de se justifier et dire « mais attendez, si on laisse circuler le virus, il y aura 1,5 million de morts en Chine et on sera comme les Américains », c'est parce qu'il se sent inquiété, c'est parce que Xi Jinping voit bien que cette politique zéro Covid, elle est challengée, elle n'est pas comprise et qu'au fond, cette colère des Shanghaïens, elle est tout autant sanitaire que politique, que contre le pouvoir, la politique menée à Pékin.
Oui, elle est beaucoup plus politique que sanitaire. Ah, ouais. Là, on est dans une guerre à peu près idéologique et aussi politique, c'est-à-dire la lutte pour le pouvoir. Xi Jinping doit être reconduit dans ses fonctions en octobre ou novembre de cette année. Le pari est...
Pour un nouveau mandat de 5 ans, je crois.
Pour un nouveau mandat de 5 ans, alors qu'il a déjà fait ses 10 ans, mais il a lui-même levé la barrière des 10 ans. Donc ça, c'est pas évident. Mais aussi, Xi Jinping s'est beaucoup vanté, énormément vanté, à la fin de l'année 2020, en créant des galeries, des musées à la gloire de la victoire contre le Covid, et en disant, on est les meilleurs, et on va non seulement envoyer notre know-how dans tous les domaines sur le monde, mais aussi notre gestion du Covid. Donc là, il est très embêté, parce que s'il fait marche arrière, ça veut dire que ce qu'il a dit il y a un an, ça tient pas, quoi. Donc il est très obstiné. Mais d'un autre côté, je pense que les Chinois sont des stratèges redoutables. Hein. Je crois qu'ils voient l'avenir. Ils voient qu'il va y avoir des difficultés énormes. L'économie chinoise est quand même assez fragile maintenant. La guerre en Ukraine n'arrange rien. Et qu'il veut peut-être un peu prévenir la population. Maintenant, les temps vont être difficiles. Mais j'aimerais bien reprendre un mot que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que la population de Shanghai s'est embourgeoisée? Bon, d'une certaine façon, oui. Mais le problème n'est pas là maintenant. Le problème, c'est qu'il y a des quartiers qui sont à peu près, pas en famine, mais presque, qui sont très, très peu alimentés. Justement, Arnaud Miguet nous disait il y a deux jours que certains gens mangeaient...
Arnaud Miguet, c'est le correspondant de France Télévisions à Shanghai, à Pékin.
Un repas par jour et s'efforcer de bouger le moins possible pour ne pas dépenser de calories. Je veux dire, là, c'est pas de l'embourgeoisement. Hein. Je vous mets au défi de vous trouver dans une situation de ce genre. Et l'autre chose, c'est le désordre total. Parce que les Chinois qui maintenant ont des petits téléphones partout, ils nous ont montré des stocks, mais immenses. Je dirais comme tout un parking de Carrefour, quoi. Plein de boîtes repas au soleil en train de pourrir. Donc, pourquoi? Parce que maintenant, les livreurs, ils sont confinés aussi. Donc, les boîtes repas arrivent et elles ne sont pas livrées. Donc, c'est une gabegie épouvantable.
Une gabegie épouvantable que ne supportent plus les habitants. Est-ce que la contestation contre Xi Jinping, elle est aussi sur la ligne assez autoritaire de ce Xi Jinping qui, vous nous l'expliquiez, ne veut pas se déjuger parce qu'il ne veut pas perdre la face? Oui. Donc, au fond, c'est la politique l'emporte sur le bon sens ou sur le sanitaire. Est-ce que cette ligne autoritaire qu'on a vue à l'œuvre dans d'autres domaines, elle est contestée? Au fond, les Chinois étouffent un peu sous ce Xi Jinping qui, par rapport à son prédécesseur, c'est quand même durci, non? A durci le régime. Enfin, je parle sous votre contrôle, Sylvie Matelli, mais...
Alors, je ne sais pas si c'est sous mon contrôle qu'il faut parler, mais il est clair que dans le contexte actuel, face à des situations du quotidien extrêmement difficiles, le durcissement est encore plus difficile à supporter. Est-ce que pour autant c'est une lame de fond et la reprise en main par le régime de la Chine et de la population et de l'économie chinoise va être contestée dans les mois qui viennent, ça on le verra et c'est un peu prématuré pour le dire, mais c'est vrai que quand vous avez une reprise en main, si ça vous amène, rappelez-vous, on a souvent vanté en Chine le pacte économico-social qui avait été passé entre les autorités et la population, c'est-à-dire il y a de la croissance, il y a une amélioration du quotidien et au fond, vous tolérez le régime et vous acceptez le régime tel qu'il est et la population était vraiment dans cette ligne. À partir du moment où il y a une rupture, même infime, et pour le coup, elle n'est pas infime de ce pacte, il est clair que vous questionnez. Et vous questionnez...
Je ne critique pas le régime tant que je m'embourgeoise et que j'ai une vie tranquille avec ma voiture.
Et tant que j'ai de l'espoir que mes enfants vivent mieux que moi, etc., etc., à partir du moment où vous questionnez sur ça, et vous savez, il n'y a pas que dans les régimes autoritaires où la perspective de paupérisation fait peur et où vous fait descendre dans la rue. Alors imaginez dans un régime autoritaire où vous n'avez pas la main et vous ne pouvez pas agir pour préserver vos avantages et finalement maîtriser votre destin, c'est encore pire. Et c'est d'autant plus difficile pour la population chinoise qu'on peut imaginer que quel que soit le contrôle des médias, ils ont quand même accès à des images. Ils savent bien qu'à l'international, enfin je pense, Pierre et Marie nous le diront mieux que moi, ils savent que partout dans le monde, on est plutôt dans un assouplissement avec la vaccination et autres. Et au fond, ils
l'information passe.
Tout à fait. Enfin, je ne sais pas si l'information... Je pense qu'elle passe partiellement, très partiellement, mais en tout cas, ils doivent avoir quelques bribes d'informations sur le fait que partout dans le monde, on n'est plus du tout dans ces restrictions-là, au contraire, en réalité.
Pierre Aski. Est-ce que Xi Jinping, on parlait de ce 20e congrès du Parti communiste chinois qui doit lui donner un nouveau mandat de 5 ans, est-ce que, je ne sais pas, Vladimir Poutine, il n'est pas en danger à la tête du Kremlin? Est-ce que Xi Jinping, il pourrait ne pas être... Est-ce qu'il y a un risque qu'il ne soit pas reconduit à son poste? Est-ce qu'il est inquiet pour son avenir personnel avec ça?
Écoutez, le système politique chinois est quand même totalement verrouillé. Ça n'empêche pas qu'il y ait à l'intérieur du parti des clans, des luttes d'influence et des courants, que Xi Jinping a quand même très soigneusement... contrôlé en changeant les gens. Par exemple, la Ligue de la Jeunesse du parti, on en parle beaucoup ces jours-ci parce qu'elle célèbre son 100e anniversaire. La Ligue de la Jeunesse du parti était le fief de son prédécesseur, Hu Jintao. Il a purgé tous les dirigeants.
Donc il a un politburo à sa main.
Voilà. Le vrai problème pour lui aujourd'hui, c'est que c'est quoi la marque de fabrique du Parti communiste chinois, tel qu'il se vend lui-même, hein, c'est du marketing, c'est l'efficacité. C'est de dire, voilà, effectivement, le contrat social, c'est vous n'avez pas votre mot à dire, vous taisez et vous laissez la politique au parti, mais on est efficace, on a fait de la Chine la deuxième puissance, bientôt la première, vous avez 10% de plus dans votre poche tous les ans depuis 30 ans, vos enfants ont un bel avenir. C'est ça qui s'est fissuré à Shanghai et qui n'avait pas été au cours des deux premières années de Covid. La question de la comparaison avec l'international, elle est complexe parce que il y a quand même un rouleau compresseur de propagande en Chine extrêmement efficace. Moi, je me souviens qu'en janvier, j'avais reçu des appels d'amis à Pékin qui voyaient les chiffres français. On avait 400 000 cas par jour à l'époque. Hein. On était dans cette nouvelle vague. Et ils m'appelaient en disant « Mais ça doit être terrible, mon pauvre, la France en ce moment. » Je disais « Oui, j'étais au restaurant hier soir et je travaille normalement et tout va bien. On est vacciné et on traverse cette épreuve sans trop de difficultés. » y compris par rapport aux vagues précédentes qui avaient été peut-être plus pénibles. Et les Chinois avaient beaucoup de mal à l'imaginer parce que le Covid est devenu un totem, en fait, du régime. Le signe de son efficacité par rapport à la catastrophe européenne.
C'est d'avoir maîtrisé le virus, quoi.
Voilà. Et là, tout d'un coup, évidemment, patatras, ça s'écroule.
C'est vrai qu'on va voir la courbe là, de contamination au Covid en Chine. Alors, elle est spectaculaire comme ça, mais vous savez combien c'est ? 10 000 cas. 10 000 cas. Nous, en France, j'ai regardé, on est à 35 000 cas. C'est-à-dire que la grande Chine a, au fond, très peu de cas de Covid. Donc, sa politique zéro Covid, pour avoir ça, ils sont obligés de mettre sous cloche des millions et des millions d'habitants. Et c'est ça qui est
incroyable. Et dès que ça démarre, c'est-à-dire dès qu'il y a quelques cas de contamination locale, on boucle des millions de personnes. Et donc, on le voyait dans le sujet tout à l'heure, un cas dans un immeuble et tout le monde est envoyé dans un camp à des dizaines de kilomètres de Shanghai. Donc, il y a une sorte de jusqu'au boutisme qui est absolument indispensable si on veut s'en tenir au zéro Covid face à un virus qui est devenu plus contagieux, moins virulent en termes de létalité, mais qui est plus
contagieux. Sauf pour les Chinois qui sont une population naïve. Hein, très peu, comment dire, immunisés face à ce Covid et mal vaccinés, vous l'avez dit. Donc, évidemment, ils seraient beaucoup plus dangereux. Comme vous le disiez, cette étude de l'Université de Shanghai, je crois, 1,5 million de morts en Chine si on devait le laisser filer. Alors, ce confinement, très dur pour les Chinois, encore plus dur pour les expatriés français en Chine qui commencent à se demander ce qu'ils font là et qui n'ont plus qu'une seule envie, c'est de rentrer en France. Vous voyez ce sujet de Lou Kitsiela et Arnaud Miguet.
Shanghai, désespérément vide depuis près d'un mois. 26 millions d'habitants ont interdiction de mettre un pied dehors et parmi eux, 7000 Français perdent patience.
On dit que potentiellement ça peut durer comme ça jusqu'à juin, juillet. Enfin, on ne voit pas de fin. Hein. Donc c'est dur. Ma fille, elle a besoin d'aller courir dehors, de se dépenser et elle ne peut pas.
Seules sorties autorisées, les tests quasi quotidiens et parfois les livraisons de nourriture, l'enfermement pèse sur le moral.
Là, vous avez des situations extrêmement anxiogènes où les gens se sentent bloqués, enfermés. Et puis, il y a quand même cette chose très française hein, d'attache à notre liberté. Et ça, je l'entends beaucoup en thérapie.
Certains Français ont même décidé de faire leur valise.
Les bagages sont bouclés.
Basile Desmeurs vit à Shanghai depuis 10 ans. Il part dans 48 heures. Ce départ précipité a un goût amer.
vous allez tout simplement partir, en fait, avec un chauffeur qui donc vous conduit avec une tenue complète de protection dans une ville qui est vide, dans un aéroport qui est vide également. Donc oui, on a connu plus intéressant comme pot de départ.
Allez, on part à Shanghai. On va retrouver notre correspondante à France Télévisions, Lou Kissiela. Bonjour Lou. Alors, vous êtes dehors et vous êtes à Shanghai. Première question, comment avez-vous fait? Puisqu'on dit que toute la ville est confinée, c'est un tour de force. Comment avez-vous fait pour être dehors, là, tout simplement?
Bonjour Axel. Alors, vous êtes fait avoir par l'illusion, c'est ma fenêtre qui est derrière moi. Je suis bien chez moi et ça fait maintenant 44 jours que j'ai interdiction de mettre un pied dehors. Et voilà, donc pour ce qui est des conditions de mon quotidien, je n'ai pas franchement à me plaindre comparé à certaines autres personnes parce que j'ai toujours réussi à trouver de la nourriture. Et ce n'est pas le cas pour des milliers de personnes ici. On en a entendu parler. Certains Shanghaïens ont souffert de la faim ou en souffrent encore parce qu'il n'y a pas assez de livraison gouvernementale, parce qu'ils n'arrivent pas à commander en ligne sur les supermarchés. Les supermarchés sont saturés. Aujourd'hui, la ville manque aussi de livreurs. Mais je suis chanceuse d'être chez moi, même si je ne peux pas être dehors, parce que la hantise collective aujourd'hui, c'est d'être envoyée dans les centres d'isolement. Ils sont en théorie seulement pour les personnes testées positives et pour les cas contacts. Mais ces derniers temps, des immeubles entiers ont été envoyés pour quelques cas. Et une fois qu'on est dans ces centres, on ne sait pas exactement combien de temps on va y rester.
Quel est votre quotidien? Il y a ce sentiment d'enfermement très pesant et surtout... On n'en voit pas le bout parce qu'on l'a expliqué depuis le début. Ce virus est tellement contagieux qu'il est incontrôlable. L'OMS vient de le dire. Cette stratégie zéro Covid, elle va dans le mur. Elle est non tenable.
Oui, et c'est vraiment le fait de ne pas avoir de fin, de ne pas savoir quand ça va se terminer qui est le plus difficile à gérer. Aucune date de déconfinement n'a été annoncée. Et tant que le nombre de contaminations ne tombera pas à zéro, eh bien ça ne risque pas d'arriver. C'est le principe même de la politique zéro Covid. Pour ce qui est de mon quotidien, je vous le disais, on passe son temps à chercher de la nourriture, à essayer de s'inscrire sur des commandes groupées pour s'en faire livrer. Ensuite, on regarde le nombre de cas. Il y a les tests PCR qui permettent de sortir parfois seulement sur le palier, parfois dans l'enceinte de la résidence, mais dans mon cas, jamais dans la rue. Donc c'est un quotidien qui est très compliqué à gérer. Cet enfermement qui dure et qui n'a pas de fin, ça pèse sur le moral des Shanghaïens. On voit de plus en plus d'images terribles de suicides sur les réseaux sociaux et beaucoup de témoignages d'angoisse, beaucoup de témoignages de détresse.
Lou Kissiela, est-ce que vous êtes en contact avec des Français qui vivent à Shanghai? Quel est leur état d'esprit? Est-ce que vous échangez entre Français?
Oui, alors vous l'avez entendu dans le sujet, les Français se parlent beaucoup entre eux. Le consulat a organisé des groupes d'entraide pour justement trouver de la nourriture, trouver des solutions. Et la plupart des Français à qui je parle aujourd'hui, eh bien, ils veulent partir, que ce soit tout de suite, maintenant, le plus vite possible, ou que ça ait accéléré une décision qui avait été prise avant. En tout cas, c'est souvent sans billet retour, même pour des personnes qui sont installées ici depuis plusieurs années. Mais il faut savoir que partir, ça reste compliqué. Pour pouvoir sortir de chez soi, il faut obtenir l'autorisation de son comité de quartier, c'est l'échelon local du Parti communiste chinois. Ensuite, il faut trouver un vol, et ils sont rares, il y a toujours un risque qu'ils soient annulés à cause des mesures sanitaires. Et puis, il faut aussi trouver un taxi, une voiture qui ait le droit de rouler jusqu'à l'aéroport. Et ça, rien que ce trajet, ça peut coûter des centaines d'euros. Il y a aussi des entreprises étrangères de plus en plus nombreuses qui cherchent à quitter la Chine, qui envisagent de déménager. Et ce qui est encore plus surprenant, au-delà des Français et des étrangers, c'est qu'aujourd'hui, même les Chinois cherchent à partir. Ils sont de plus en plus nombreux à chercher des informations sur l'émigration. Certains appellent ça voter avec leurs pieds. C'est un peu le seul moyen de protestation qu'il reste. Mais voilà, depuis le début de la pandémie, l'administration chinoise ne donne pas de nouveaux passeport, ou alors il faut donner beaucoup de documents pour prouver qu'on a vraiment une raison urgente de se rendre à l'étranger.
Un grand merci Lou Kissiela pour ce reportage et votre courage, et merci d'être là-bas pour tous les Français, pour tout France Télévisions. Revenez-nous vite, et encore bravo pour cette ténacité et cette volonté de nous informer. Merci Sylvie Matelli. On se dit, pour les entreprises françaises qui ont beaucoup d'intérêts en Chine, ça doit être très compliqué de dire tiens, tu vas aller Elles trouvent des candidats pour aller travailler en Chine ?
Alors, c'est un vrai sujet aujourd'hui pour les entreprises françaises, puisqu'effectivement, plus personne ne veut aller en Chine. Et il est probable que ça dure dans le temps. Et en plus, elles se retrouvent confrontées aussi à les conséquences de la guerre en Ukraine, puisque la question qui se pose, c'est, il y a eu la question des sanctions si la Chine continuait à soutenir la Russie. Et au fond, des entreprises qui se disent, mais est-ce que demain, c'est pas la Chine qui est au banc des accusés des sanctions et de nos pays, et est-ce qu'au fond on prend pas des risques à rester en Chine? Donc la question est double en réalité, mais c'est vrai que sur la Chine, ça va au-delà de la situation actuelle et dramatique de ces expatriés qui n'arrivent pas à quitter le pays et qui vivent dans des situations dramatiques. L'avenir est assez sombre, parce que même une petite anecdote sur les écoles de commerce, écoles d'ingénieurs. Depuis 10 ans, il fallait absolument avoir mis comme ligne sur son CV le fait d'avoir fait un séjour long en Chine, 6 mois, 1 an en Chine. Aujourd'hui, plus personne ne veut partir en Chine. Et vous avez des tas d'écoles de commerce européennes qui ont ouvert des antennes en Chine il y a quelques années parce qu'il fallait avoir son antenne en Chine, et qui se posent la question de se retirer également parce que plus personne ne veut y aller. Donc vous voyez, ça nous en dit long sur ce que va être cette après-stratégie zéro Covid dans ce pays.
C'est incroyable ça, Marie Holzmann. La Chine, c'était perçu comme un Eldorado par toutes les entreprises et par tout le monde. On disait, il y a eu Londres, il y a eu New York, maintenant il faut aller à Shanghai. Le 21e siècle sera là-bas. Et on le disait à l'instant, là, il y a une première alerte avec les questions de Hong Kong sur la liberté, qui fait qu'on s'est dit, tiens, la Chine, quand même, c'est pas tout à fait tranquille comme pays. Et maintenant, il y a le Covid. Ce pays est passé d'un Eldorado, à un repoussoir.
J'avoue que, je m'excuse, mais votre formulation me surprend, parce que depuis que Xi Jinping est arrivé, ceux qui n'ont pas compris qu'on était en train d'aller doucement vers un totalitarisme absolu me semblent naïfs, quoi. Parce qu'il n'a pas caché son jeu. Dès qu'il est arrivé, il a mis en place toutes sortes de mesures, et il l'a fait avec une grande habileté, ça, il faut bien lui le reconnaître. Bon, il a viré tous ses compétiteurs parce qu'ils étaient prétendument corrompus, mais tout le monde est corrompu en Chine, sinon on ne peut pas faire de business. Donc ça, tout le monde le sait. Alors on a dit, c'est bien, il lutte contre la corruption. Bon, non. Après, il a mis en prison tous les avocats défenseurs des droits civiques. D'un coup, il y a eu une arrestation de 300 personnes en une nuit en 2015. Depuis ce moment-là, la défense des citoyens ordinaires, c'est-à-dire c'est pas les hommes d'affaires, c'est pas les divorces, c'est des cas normaux, c'est-à-dire on vous a exproprié, on vous a pas dédommagé. C'est normal de faire un procès. Eh ben, les gens qui défendaient ces gens-là maintenant ne le défendent plus, parce qu'ils peuvent plus pratiquer, etc., etc. Et maintenant, on est arrivé à peu près à la fin du totalitarisme, puisque les gens entrent chez vous comme ils veulent, vous voulez pas ouvrir, ils détruisent la porte, vous voulez pas sortir, ils vous prennent, vous en avez même vu une image, on vous emballe dans du sparadrap et on vous met un masque. Enfin, mais ça fait longtemps qu'on va vers le totalitarisme, et c'est un mot que personne ne veut employer, mais c'est le cas. Imaginez, pendant 30 ans, on a obligé les Chinois à n'avoir qu'un enfant. Et pendant 30 ans, il y a eu l'invasion des vagins. Il faut le faire quand même. Les femmes étaient stérilisées de force. On les forçait à avorter à 8 mois de grossesse. Enfin, tout ce que vous voulez. Et maintenant, on leur dit, si vous ne faites pas 3 enfants, vous n'aurez pas d'augmentation. Et dans le cas des cadres du Parti communiste chinois, on a dit, un cadre doit montrer l'exemple et doit faire 3 enfants. C'est du délire. Donc, ils ont fait une connerie en empêchant la population de grandir dans des proportions normales. Maintenant, ils veulent imposer 3 enfants dans des conditions épouvantables, parce que le prix du logement est impossible, le prix de l'éducation est impossible. Et puis, il y a une chose qu'on remarque en ce moment, on ne parle pas des enfants à Shanghai. Où est-ce qu'ils vont, les enfants? Ils vont plus au parc, ils vont plus dans le pâté de sable, ils vont plus à l'école. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à ces pauvres gosses?
Pierre Aski, Marie Holzmann vient de me faire une description assez apocalyptique de la vie.
Mais
elle est apocalyptique. La Chine et les dirigeants chinois n'ont aucun problème à exposer aux yeux du monde ce visage très négatif. Je veux dire, on parle beaucoup du soft power, offrir au monde un visage attractif, au moins faire semblant. Cette ligne ouvertement hostile, elle n'est pas questionnée à la tête du Parti communiste chinois. On est les vilains, on se dirige tranquillement vers une société à la nord-coréenne, et ça ne dérange personne.
Alors, pendant longtemps, la Chine a essayé de rechercher ce soft power et d'être séduisante et de présenter une image acceptable au reste du monde. Aujourd'hui, elle a conclu qu'il valait mieux être craint qu'aimé. Et il y a eu, Xi Jinping a changé la donne. C'est clair que il y a des gros éléments de continuité dans la gestion du Parti communiste, mais il y a aussi des moments de tournant, de virage. Il est clair que Deng Xiaoping a été un moment de virage après Mao Tse-tung, et que aujourd'hui, avec Xi Jinping, on a un retour vers l'idéologie, vers le contrôle absolu. Non seulement de la population, mais aussi de l'économie. C'est un phénomène dont on a un petit peu parlé à un moment lorsque Jack Ma avait disparu, le patron d'Alibaba, qui était la plus grande fortune de Chine. Mais on a un contrôle absolu aujourd'hui de l'économie, y compris privée, par les rouages du parti. Donc on a une Chine qui, d'une certaine manière, se complaît dans la projection de cette image un peu terrifiante. Parce qu'elle veut être respectée comme une grande puissance. Elle n'arrive pas à le faire avec le soft power.
On a beaucoup aimable.
Dit, vous savez, le soft power, c'est le mot est venu de Hollywood, de cette capacité qu'avaient les Américains à une certaine époque à projeter un mode de vie, un appétit d'américanité. Même si on n'aimait pas leur politique, c'était un peu le cas des Français. On critiquait les Américains surtout, mais on adorait leurs films, leur Coca-Cola et leur mode de vie. Et les Chinois ont essayé à un moment de faire pareil. Aujourd'hui, ils sont arrivés à la conclusion que dans le monde aujourd'hui, c'est leur force économique, leur force militaire, leur force de projection de la puissance qui est leur atout numéro un. Et ce que nous disons aujourd'hui sur les travers totalitaires de la vie en Chine, peu importe, ce n'est pas ça qui empêchera la Chine d'avancer. C'est un peu comme ça que les dirigeants raisonnent aujourd'hui, sauf qu'ils sont arrivés à une étape où il y a des contre-coups à ça. Il y a un prix à payer pour ça, qui est celui des investissements, qui est celui de l'attractivité d'un pays. Lorsque ces Français veulent partir, c'est le cas des Allemands, des Américains ou des Japonais, c'est une perte nette pour le pays quand même. Ce sont des gens qui ont apporté du savoir-faire, des investissements, etc. Mais ça joue aussi sur les cadres supérieurs chinois. Moi, j'ai des échos de grandes entreprises étrangères. Tous leurs cadres chinois leur disent mais mutez-moi au Canada, en Australie ou n'importe où, mais il me faut, et on l'a entendu ce que disait votre journaliste, il faut pouvoir justifier de partir quand on est chinois. Et donc les gens disent mais donnez-moi un papier qui prouve que je suis muté à Honolulu, peu importe où, mais pour que j'ai l'autorisation de partir. Donc on a un
quand
pays...
on réussit, on n'a qu'une seule envie en Chine, c'est de s'en aller, quoi.
Aujourd'hui, ce n'a pas toujours été le cas. Ce n'était pas le cas pendant très longtemps. La Chine avait, par exemple, réussi une chose incroyable, c'est que les étudiants chinois qui étudiaient aux États-Unis, en France, en Angleterre, etc., ils retournaient. Le taux de retour était bien supérieur à celui de l'Inde, par exemple, ou d'autres pays. Il faudra voir ce que ça donne dans l'avenir, mais il y a eu une attraction à la fois nationaliste, mais aussi de la réussite économique chinoise et de ce pacte social qui est de dire ok, vous revenez dans un pays où vous n'aurez pas de droit politique,
mais...
vous ne pourrez pas ouvrir votre gueule comme en France, mais il y a l'efficacité économique, il y a la réussite, il y a cet embourgeoisement dont on parlait tout à l'heure. Shanghai, c'est une ville de classe moyenne.
Alors Shanghai qui vit depuis 41 jours sous confinement, Shanghai c'est l'un des poumons économiques de la Chine et du coup c'est toute l'économie chinoise qui ralentit, sauf que la Chine exporte dans le monde entier. Et donc, ce ralentissement chinois, eh bien, on va le constater très vite, physiquement, dans les rayons de nos supermarchés. Sujet de Arnaud Miguet.
C'est le chaos en Chine. À l'image de ces routes à Zhangzhou, 10 millions d'habitants, ils viennent d'apprendre qu'ils seront confinés. Précipitation dans les supermarchés. À Shanghai, les routes sont toujours désertes. Les habitants cloîtrés. L'économie de toute la ville est au point mort. Consommation et services en berne. Seules des entreprises dites essentielles fonctionnent à nouveau. Celle-ci fait des semi-conducteurs, c'est la deuxième plus grande du pays. Mais depuis des semaines, les employés travaillent, se distraient et dorment sur place. C'est une condition.
La demande mondiale en puces électroniques explose. Nous devons faire le nécessaire pour continuer à produire assez de puces et nous assurer que nos sous-traitants ne soient pas en rupture de stock.
Impact de la stratégie zéro Covid, inquiétant pour les entreprises et toute l'économie du pays. Toutes les chaînes d'approvisionnement sont bloquées. Les ports, comme ici à Shanghai, fonctionnent au ralenti. L'activité a même chuté de 40%. Les containers à destination de l'Europe et du reste du monde mettaient 5 jours à être embarqués sur les bateaux au mois de mars. C'est 12 jours aujourd'hui.
Marie Holzmann, on se faisait l'idée de Chinois travaillant 7 jours sur 7, 10 heures par jour. Là, ils sont cloîtrés chez eux, ils ne peuvent plus travailler. Il y a un quoi qu'il en coûte, d'ailleurs, est-ce qu'ils sont aidés par le gouvernement ?
Ils ne sont pas tous cloîtrés chez eux, il y en a qui sont cloîtrés dans les usines. Ah. C'est pour ça qu'il y a... J'ai vu ça hier, je n'ai pas pu vérifier, mais apparemment 10 000 ouvriers ont cassé les portes et sont sortis de leur usine là, il y a quelques jours. Je pense que vous avez vu ça aussi. Ils n'en pouvaient plus parce que ça faisait 40 jours qu'ils n'avaient pas pu rentrer chez eux. Et donc les employeurs en profitaient pour les faire travailler 12 heures par jour, dormir par terre, manger je ne sais pas quoi.
Gouvernement c'est aide les familles quand même qui sont isolées chez elles, qui n'ont plus de revenus pour celles qui ne peuvent pas travailler. Est-ce qu'il y a un embryon de politique sociale ou est-ce qu'on est encore...
Les exemples qu'on a sont plutôt dans le sens inverse. C'est-à-dire que dans toutes les grandes villes de Chine, on a ce qu'on appelle les migrants, donc des gens qui n'ont pas le statut de citadin. On a vu des manifestations à Tianjin de migrants qui hurlaient leur désespoir en disant « Mais vous apportez des colis repas aux gens qui ont une adresse, évidemment, un nom, une adresse sécurité sociale, quoi. Et nous, on n'a pas de nom, on n'a pas d'adresse, donc on n'a rien. » Et à Shanghai, on voit aussi, il y a des gens qui dorment dehors, parce qu'ils ne peuvent plus aller nulle part. La politique sociale en Chine, ce n'est pas vraiment ça.
Sylvie Matelli, Shanghai, plus gros port du monde. Il est à l'arrêt depuis 41 jours. Est-ce qu'il y a des exemples de pièces qui n'arrivent plus parce qu'on les attendait de Shanghai? Elles sont sur le port de Shanghai toujours.
Alors, ce qui est dramatique dans la situation, c'est que le pire est à venir en réalité. C'est que les conséquences en termes d'approvisionnement du confinement de Shanghai va arriver, commence à se voir, mais va vraiment se voir à partir du début de l'été. Mais par contre, on subissait déjà des difficultés parce que cette stratégie zéro Covid, elle n'est pas nouvelle en Chine. Ça fait 2 ans qu'elle est menée et que tout fonctionne au ralenti dans un contexte qui plus est où vous vous souvenez qu'au sortir des premiers confinements, on a eu systématiquement des reprises extrêmement rapides, une reprise de l'activité extrêmement rapide partout dans le monde avec des besoins accrus. Donc vous avez eu ce choc en fait entre la difficulté à s'approvisionner et la demande qui souhaitait consommer et l'activité qui devait reprendre. Donc ça c'est dramatique, c'est que ça se rajoute en fait à une situation compliquée. Si vous remettez une couche de difficulté avec la crise, la guerre en Ukraine et la difficulté et les manques d'approvisionnement de la Russie, vous avez encore plus de difficultés. Je crois que c'est la situation à Shanghai aujourd'hui. On ne la perçoit pas encore complètement, on la perçoit encore à peine. Et pourtant, nos chaînes de valeur sont en difficulté. Il y a des pénuries dans un certain nombre d'entreprises et des pénuries dans un certain nombre de commerces qui se doublent en France et ailleurs, partout dans le monde, qui se doublent à d'autres difficultés. Donc je crois que ça va être encore plus difficile dans les semaines qui viennent.
Pierre Aski, est-ce qu'on aussi, on se rend compte qu'on est toujours très dépendant du Made in China, sauf que... Les Français ne veulent plus aller en Chine. Nos entreprises s'interrogent sur la pertinence de continuer à aller faire des affaires avec la Chine. Est-ce qu'on n'est pas au début quand même il y a une prise de conscience et du coup on se dit il va falloir quand même qu'on se désintoxe du Made in China. C'est toute la volonté de faire des relocalisations et d'arrêter d'être dépendant de ce port de Shanghai.
Alors, on a eu ce débat au début du Covid, souvenez-vous. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus faire de paracétamol en Europe et que ces chaînes de logistique mondiale étaient à flux tendu. C'est-à-dire que s'il y avait un grain de sable quelque part, tout d'un coup, ça se cassait la figure. Et personne n'avait imaginé, ce qui était le cas au début du Covid, que le monde entier aurait la même crise en même temps. Et donc, tout d'un coup, tout ça s'est écroulé. Donc on a beaucoup parlé à ce moment-là, c'est la fin de la mondialisation, la régionalisation, relocalisation, etc. Là, on a de nouveau le même débat avec ce qui se passe en Chine. Et il y a des débuts de régionalisation, non pas de relocalisation, parce que je pense que les coûts restent quand même prohibitifs. Mais il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, qui avaient des sous-traitants en Chine, qui aujourd'hui répartissent le risque. Elles ouvrent des usines en Indonésie, aux Philippines, en Thaïlande, pour éviter d'avoir tous les œufs dans le même panier, si je peux dire, c'est-à-dire d'être dépendant d'un fournisseur. Donc je pense que cette phase-là, elle est terminée, c'est-à-dire la Chine usine du monde, comme on disait dans les années 2000, c'est-à-dire que le meilleur rapport coût-avantage. La Chine a eu cette intelligence de construire une infrastructure absolument exceptionnel. Le port de Shanghai que j'ai visité est un port unique au monde, totalement robotisé avec des conteneurs qui bougent tout seuls dans tous les coins. Enfin, et vous avez une tour de contrôle comme dans les aéroports qui dirige un port qui est à perte de vue. Enfin, c'est exceptionnel. Toute cette logistique-là, elle est aujourd'hui dans l'échec. Parce que les gens se disent, mais on a confié en gros notre sort à la Chine et on fait marche arrière aujourd'hui progressivement. Donc est-ce que la Chine est capable aujourd'hui de se réinventer, d'avoir un autre modèle à offrir au monde et à sa propre population? Ça va être une phase très compliquée pour nous de nous réadapter à ce monde avec moins de Chine, parce qu'il n'y aura pas un monde sans Chine, mais avec un monde avec moins de Chine. Mais ça sera aussi très difficile aux Chinois de proposer un autre modèle. Ils avaient...
Parce que leur fortune, ils la tiennent de l'export. Hein. Ils s'enrichissent en exportant. Hein.
L'export, mais ça fait plusieurs années qu'il y a un débat en Chine et il y a eu des décisions de prise de réorienter la croissance chinoise, non plus seulement vers l'export, mais aussi vers la consommation intérieure. Sauf que le ralentissement fait que les Chinois sont poussés naturellement à épargner et à prévoir des jours plutôt difficiles.
Donc à consommer. Oui, Sylvie Matteny.
C'est un élément qui est très, très intéressant et qui complète un petit peu ce que disait Pierre. C'est que c'est vrai que depuis la crise de 2008, on a eu ce débat en Chine qui consistait à dire, bon, ça y est, là, on est devenu l'atelier du monde, on est devenu incontournable dans la mondialisation. Mais aujourd'hui, si on veut continuer à se développer, il faut penser une nouvelle stratégie. Et donc, il faut se développer, monter en compétences, monter en gamme, développer nos technologies, investir dans nos technologies et développer notre marché et notre consommation. Alors ça a été très compliqué, ils n'y sont pas parvenus. Il faut savoir qu'en Chine, il y a juste avant le Covid, les derniers chiffres qu'on avait du niveau de consommation, la part de la consommation dans le produit intérieur brut était inférieure à ce qu'elle représentait au début des années 2000. Ça ne veut pas dire qu'on ne consommait pas, bien au contraire, parce que le PIB avait augmenté tellement rapidement, mais il n'empêche qu'on consommait quand même un petit peu moins et qu'on était plus dépendant de l'export, ce qui est assez logique. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, on avait vu les entreprises suite à cette volonté de développer le marché intérieur, on avait vu toutes les entreprises étrangères se dire waouh, ça va être l'Eldorado, la Chine, pour le coup, parce que les consommateurs vont avoir de gros moyens, vont vouloir consommer. Et l'investissement avait un petit peu changé. C'est qu'au départ, il y a 20 ans, on investissait pour délocaliser et
pour faire des usines. Et maintenant, c'est pour leur vendre.
On investissait plutôt pour vendre à la population locale, pour
des voitures ou des choses
exactement,
comme ça.
Exactement, tout à fait. Et c'est vrai que la situation aujourd'hui questionne aussi ce changement stratégique d'il y a une quinzaine d'années, parce que on en vient, quand on est une entreprise, à se demander est-ce que l'économie chinoise va tenir, va continuer à se développer, et est-ce que le marché demain sera aussi prometteur qu'il l'était il y a quelques années. N'oublions pas, somme toute, que c'est 1,5 milliard d'habitants et qu'ils ont encore du potentiel.
Alors, en tous les cas, nous sommes très dépendants du Made in China, et ça vaut aussi pour les Américains. Alors, ce qui est très curieux, c'est que les Américains, en ce moment, Joe Biden a subi une inflation. L'inflation est au plus haut depuis 40 ans. Du coup, qu'a imaginé Joe Biden pour essayer de faire baisser les prix? Eh bien, il propose de baisser les taxes sur les produits importés de Chine. Vous voyez ce sujet à Washington, de Thomas Donzel avec Loïc Delamornay.
C'est le casse-tête de Joe Biden, une inflation galopante, près de 8%, un record depuis plus de 40 ans aux États-Unis. Hausse en flèche des loyers, des prix de l'énergie, des biens de consommation. Alors Joe Biden envisage une solution, alléger les taxes sur les produits chinois.
Oui, on discute en ce moment de l'allègement de certaines taxes douanières. Je veux que chaque Américain sache que je prends l'inflation très au sérieux. C'est ma priorité numéro un.
En 2018, Donald Trump, champion déclaré de l'Amérique d'abord, avait initié une guerre commerciale avec la Chine, augmentant considérablement les droits de douane sur de nombreux produits chinois. Des mesures maintenues par Joe Biden qui touchent l'équivalent de 350 milliards de dollars de marchandises par an. Mais aujourd'hui, la Maison-Blanche envisage d'alléger ses taxes sur certains biens de consommation. Des jouets, des appareils électroménagers, des outils. Taxés aujourd'hui en moyenne à 20%, les droits de douane pourraient baisser de plusieurs points. Cela permettrait aux consommateurs américains d'acheter un peu moins cher et donc de lutter contre l'inflation.
Alors Marie Haussmann, on n'y comprend plus rien. On pensait que les Américains voulaient se désintoxiquer des produits chinois et que la Chine était devenue le méchant, le vilain.
Oui, mais là, on voit la vérité. Là, on voit la vérité. Il y a le discours et puis il y a la vérité. J'entends beaucoup de commentaires ici de dire « Ah bah oui, on critique la Russie, on critique la Chine. La Russie et la Chine vont s'associer. Ce sera la guerre avec les États-Unis. » Mais c'est pas possible. C'est deux économies qui sont complètement interconnectées. Mais surtout, il y a la dimension humaine. Xi Jinping, sa fille, elle est aux États-Unis. Elle s'est mariée aux États-Unis. Sa sœur aînée, elle a une carte de séjour au Canada, permanente. Sa sœur cadette, une carte de séjour en Australie.
Il y a trop de liens maintenant.
Mais bien sûr.
Pourtant, on l'a beaucoup dit, ça. Vous savez, la guerre, elle peut défaire des intérêts.
Bien sûr, la guerre peut défaire toutes sortes d'intérêts, bien sûr. Mais je pense que cette image que les États-Unis, c'est le grand Satan de la Chine, est une image fausse. Les Américains ont besoin de la Chine a besoin des Américains. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais en revanche, parallèlement à ça, la Chine est en train de se refermer. Elle s'est refermée petit à petit depuis 2 ans, mais maintenant elle se referme vite. Cette semaine, nous avons de nouvelles petites informations, mais qui sont quand même significatives. On parlait des Chinois qui essayaient de quitter la Chine. Et à la douane, on leur dit « Est-ce que tu as un billet de retour ? Est-ce que tu as l'intention de revenir en Chine ?» Donc si c'est oui, et puis que c'est clair que bon, c'est une affaire comme ça, ils passent. Mais sinon, on dit « On a l'impression que vous avez des idées malveillantes à l'égard de la Chine. » Et devant la personne...
Ils refont un rideau de fer à la soviétique, en gros ?
Devant la personne, les passeports ont été déchirés. Et il y a une anecdote d'un père et son fils qui sont partis par les voies de secours, l'échelle de secours de l'aéroport, pour ne pas être immédiatement emportés, Dieu sait où, en confinement ou en prison. Donc la Chine se durcit énormément, hein, mais pas sur le plan économique, pas pour le moment.
Mais quand même, Pieraski, sur le plan économique, il y a cette théorie d'un effet miroir. Au fond, la Russie s'est très mal comportée en Ukraine. Du coup, du jour au lendemain, Renault doit tout abandonner en Russie. On se dit, si demain la Chine se comporte mal avec Taïwan, par exemple, est-ce que Joe Biden, du jour au lendemain, dira, ah ben maintenant, vous quittez la Chine? Et du coup, est-ce que c'est pas, en tous les cas, est-ce que c'est pas une question que se posent les PDG du monde entier?
C'est évident, et le président de la Chambre de commerce européenne en Chine, qui est un homme d'affaires allemand, qui est en Chine depuis 30 ans, donc un homme qui connaît parfaitement ce pays et qui représente des milliers d'entreprises, l'a dit dans une interview la semaine dernière à un magazine économique européen, en disant... tous les patrons des grandes entreprises qui sont implantées en Chine ont été traumatisés par ce qui s'est passé en Russie. Donc les groupes comme Renault et autres qui en 24 heures ont vendu leur part.
Un rouble symbolique.
Voilà. Et en se disant, est-ce que nous ne serons pas obligés de quitter la Chine précipitamment si demain il y a une guerre avec Taïwan ? Et il ajoutait, les dirigeants chinois ne semblent pas comprendre cette dimension du problème. Et c'était quand même très significatif qu'un homme aussi puissant, parce que Chambre de commerce européenne en Chine, c'est pas rien, un homme qui est là depuis 30 ans, qui sait le poids des mots et les lignes rouges à ne pas franchir en termes de prise de parole, qu'il ose dire une chose pareille, c'était très significatif. Mais je voudrais revenir à la question des liens économiques, effectivement. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Et dans ce que fait Biden, c'est très intéressant. C'est que... effectivement, sa priorité aujourd'hui, c'est la lutte contre l'inflation. Donc, il va baisser les taxes sur les produits de consommation. Mais là où il ne lève pas le pied par rapport à ce qu'a initié Trump, c'est sur la technologie.
Ah oui.
C'est-à-dire que les sanctions sur les entreprises de technologie chinoises, elles vont rester. Et là, on a deux choses.
On arrête de donner nos technologies aux Chinois. Hein, voilà.
Et surtout, on ne permet pas à des groupes comme Huawei, on en a tellement parlé ces dernières années, donc le géant des télécoms chinois, l'équipementier télécom chinois, qui est aujourd'hui barré du marché américain. Ce qui n'est pas le cas de tous les équipementiers chinois. Il y en a d'autres. Xiaomi, par exemple, qui est une autre grande marque, a le droit de vendre aux États-Unis.
Téléphones portables.
Mais Huawei ou Xvision, qui est par exemple le spécialiste des caméras de surveillance, etc. Il y a une liste noire américaine qui est considérable.
En tous les cas, c'est vertigineux hein, ce qui nous attend de se dire que et si demain il fallait couper les liens économiques avec la Chine, comme on l'a fait avec la Russie, sauf qu'avec la Chine, on imagine l'ampleur des liens économiques qui nous unissent. Merci, il faut rendre l'antenne, Marie Osman. Mais c'était passionnant, on fera la suite, hein, je vous promets, parce qu'on avait plein d'autres questions. Vous restez sur France Info et on se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée, à demain.